Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri ? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison ? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel, préparés pour le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Nous connaissons tout de même un peu cette parabole pour l'avoir déjà entendue plusieurs fois. Elle est longue et elle a été beaucoup, beaucoup exploitée au niveau de l'art, au niveau artistique. Souvenez-vous, quand vous visitez une cathédrale, une église, il est rare qu'on ne trouve pas au tympan de l'église la représentation de cet épisode du jugement. Il y a des tympans tout à fait célèbres à Chartres, à Vézelay ou ailleurs, qui sont comme des catéchismes en images et en sculptures pour enseigner cette réalité de la venue du Christ à la fin des temps pour le jugement des nations. Tout d'abord, on peut souligner que Jésus vient comme berger. Il est question de brebis et de séparation des brebis, des béliers et des boucs, entre brebis et brebis. Vous avez entendu la première lecture qui faisait allusion à ce berger qui prend soin de toutes ses brebis. Et Jésus reprend cette présentation, cette thématique, pour se présenter comme le berger qui vient, donc qui aime chacune de ses brebis. Deuxième chose peut-être qu'on peut souligner, c'est que Jésus vient comme juge. Et il est question de quelque chose d'un peu particulier dans cette parabole, c'est le jugement des nations. On nous dit que toutes les nations sont rassemblées devant lui. Ce n'est pas ce qu'on en appelle le jugement particulier. Chacun nous serons jugés pour ce que nous avons vécu. C'est le jugement, quel mot faut-il employer ? Jugement général, c'est un mot qui s'oppose à jugement particulier. Jugement des nations, parce que le mot nation se trouve dans la parabole. Jésus parle d'un moment où, à la fin des temps, quand il viendra dans la gloire, il y aura comme une sorte de jugement pour les aspects collectifs et sociétaux de la vie des hommes durant toute l'histoire de l'humanité. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, toutes les nations de tous les temps, et chacune des époques sera jugée pour la façon dont elle a accueilli Jésus dans le plus petit. C'est intéressant de remarquer cela parce qu'on a une perception du jugement qui est plus individuelle que communautaire et collective, et qu'ici on nous dit qu'il y a des structures de bien et des structures de péché, des structures sociétales, nationales, internationales, qui passeront au crible du jugement. Et aujourd'hui, avec l'époque de la mondialisation, où on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent, et que nous sommes le jouet de décisions qui nous viennent d'en haut et auxquelles nous ne pouvons rien, ici, Jésus dit que, de toute façon, il y aura à rendre des comptes à Dieu pour ces aspects, et toutes les nations de tous les temps rendront des comptes ainsi, au cours de ce jugement des nations. Alors, c'est la réalité même du jugement aussi qui peut poser question dans nos esprits, en nous disant un jugement, oui, enfin bon. Et il y a dans toute la Bible cette perception que Dieu est créateur et en même temps il est juge aussi parce qu'il est créateur et parce qu'il est Dieu et qu'il vient véritablement sanctionner en quelque sorte nos conduites humaines, personnelles et communautaires. Et puis je voudrais rajouter encore deux aspects. On entend beaucoup parler de tennis en ce moment à la télévision ou à la radio, et donc je vais employer deux mots, simple et puis double. Simple parce que Jésus nous dit que le jugement s'exercera sur des choses toutes simples. Toutes simples. Et dans cette parabole, il renverse complètement les représentations humaines du pouvoir en nous disant que Dieu lui-même se fait le dernier, le tout petit, le plus petit, le tout dernier, vraiment. Il a pris la place du dernier. Vous connaissez ce mot célèbre du confesseur de Charles de Foucault, qui est mort en 1916, je crois, et qui, au moment de sa conversion, a entendu son confesseur, l'abbé Huvelin, lui dire « Dieu a tellement pris la dernière place que personne ne pourra la lui enlever ». Dieu a tellement pris la dernière place que personne ne pourra la lui enlever. Et Jésus, ici, dit bien qu'il a pris la dernière place et il est présent dans le dernier, dans le petit, dans le sans droit, le pauvre, l'immigré, tout ce qu'on veut. Et donc, simple. Le jugement porte sur des aspects simples. Il ne nous est pas demandé de grimper au rideau, de faire des choses extraordinaires, mais d'être attentif à la personne qui est à côté de nous, et dans la présence de laquelle il y a Jésus qui s'est fait le plus petit. Simple. Et puis le deuxième mot, c'est double. Parce que la parabole se termine par cette perspective. Il y a deux issues à ce jugement. Les uns entrent dans la vie éternelle, les autres vont au châtiment éternel. Alors là, on a les poils qui se hérissent, les cheveux qui se dressent, enfin ce qui peut en rester, et on se dit comment est-ce que Dieu peut ainsi... Mais il faut regarder que sur les tympans de nos cathédrales et de nos églises, effectivement, on a l'impression d'une parabole totalement symétrique. Il y a à gauche ceux qui vont en enfer, puis à droite ceux qui vont au ciel. Et cependant, quand vous regardez le texte et vous écoutez bien, ce n'est pas symétrique. Jésus dit « Venez les bénis de mon Père, entrez dans le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. » C'est un héritage, le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Voilà, il y a une seule chose qui est préparée de toute éternité pour les hommes, c'est le royaume de Dieu. Et dans la deuxième partie de la parabole, « Allez-vous-en loin de moi, maudit, dans le feu éternel, préparé pour le démon et pour ses anges. » Le feu éternel n'a pas été préparé pour les hommes. Il a été préparé pour le démon et pour ses anges. Et Dieu ne met personne en enfer. Ce sont les hommes qui, par leur refus de Dieu, leur refus conscient, total et délibéré, et d'une certaine façon éternel, ne voulant pas revenir sur leur décision, sont les hommes qui se retirent eux-mêmes en enfer, c'est-à-dire hors de l'amour, hors de la vie. Mais il est important de voir ce double aspect de cette double issue au fond au jugement. Et il est posé dans cette parabole l'existence de l'enfer, la possibilité d'un raté total pour nos vies dans la mesure où nous refuserions vraiment l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, le don que Dieu nous fait et où aussi nous ignorerions sa présence dans les plus petits, dans les plus pauvres. Voilà cette parabole qui nous est offerte aujourd'hui dans cette fête du Christ roi de l'univers. Et vous avez entendu dans la deuxième lecture que saint Paul, qui réfléchit à cette seigneurie de Jésus, cette royauté de Jésus, saint Paul nous dit qu'à la fin des temps, eh bien, Jésus détruira toutes les puissances de mal, et puis, ayant tout rassemblé en lui, se soumettra totalement au Père. Et alors Dieu sera tout en tous. En effet, le Père a tout remis à son Fils. Jésus, dans ses 3 années de ministère, a eu des paroles tout à fait claires en disant « Le Père a tout remis au Fils. Le Père a donné le jugement au Fils. » Il a dit aussi « Je ne juge personne. C'est ma parole qui vous jugera au dernier jour. » Mais voilà, Jésus a tout reçu du Père, reçu la conduite de l'humanité, du monde entier, et à la fin, il remettra tout au Père, car tout sera fini et les puissances de mal seront totalement détruites, car il est Seigneur et il les a déjà vaincus. Voilà la perspective qui nous est proposée par la parole de Dieu ce matin, que Jésus règne dans nos vies, dans nos cœurs, mais aussi dans nos structures de société. Et là, il y a tout l'espace à déployer d'engagement, de notre engagement dans la vie de la société pour orienter les réalités temporelles dans le sens de l'amour du plus petit, puisque c'est là le critère que Jésus donne, le service du plus pauvre, l'accueil de l'étranger, etc. Il y a beaucoup de réflexion à faire à partir de cette parabole pour l'engagement que nous avons à vivre dans le monde. Que le Seigneur nous éclaire et nous donne la force de son Esprit Saint pour vivre comme ses témoins.